compositeur de musique concrète et photographe Denis Streibig travaille de façon complémentaire le son ou l'image. Après Séquence Inquiète, collection signature Radio France en 2007, Denis Streibig a sorti récemment Surface du Vice aux éditions Planipen Rex, dont nous sommes en train d'écouter quelques extraits. Il est par ailleurs membre de l'association Le Sémaphone. Alors Denis Streibig, dans votre parcours musical, il n'y a ni conservatoire ni école de musique.
Et non, je suis ce qu'on pourrait appeler un autodidacte. À ceci près que, effectivement, je n'ai pas étudié dans une institution, mais que j'ai étudié auprès de quand même des compositeurs qui m'ont précédé, puisque j'ai lu beaucoup, notamment Pierre Schaeffer, Michel Chion, enfin les grandes signatures qui ont travaillé sur la notion de musique concrète. Et puis en écoutant le répertoire, en le pratiquant et en pratiquant moi-même de manière artisanale la composition dans mon propre studio que j'ai étoffé au fur et à mesure des années.
Alors l'électronique, c'était un choix évident dans les années 90 pour un jeune qui voulait faire de la musique ?
Oui, alors comme j'ai pas pratiqué l'instrument, en fait, c'était un moyen technique pour moi de retrouver rapidement une forme de virtuosité musicale sans passer par le geste instrumental. Puisqu'il faut des années pour acquérir les automatismes et simplement la dextérité, c'est de la psychomotricité fine, quoi. Et là, ça ne m'était plus permis puisque j'ai commencé la musique assez tard. Donc j'ai bien senti rapidement que je n'aurais jamais accès à cette vista, à cette virtuosité-là. Donc le moyen de contourner cette difficulté, c'était de faire appel à la technologie et notamment à l'électronique, effectivement.
Et quand vous avez commencé la musique, c'était quel instrument ?
J'ai fait quelques mois de piano classique et en fait c'est par l'intermédiaire du clavier, donc le synthétiseur à clavier qui était quasiment le seul synthétiseur accessible dans les années 80. Dans les années 90, on est revenu à des, un peu grâce à l'intérêt de la musique techno, on est revenu à d'autres technologies qui étaient antérieures finalement, ce qui est paradoxal, qui était la synthèse analogique où finalement on met des petits câbles pour relier des modules et qu'on fabrique les sons en tournant des potentiomètres, en fait. Donc voilà, ce qui est une démarche qui me convient très bien, qui est très proche de la musique concrète, de la démarche concrète, puisqu'en fait on conçoit des sons, on les enregistre, et c'est une fois qu'on les enregistre finalement qu'on a une écoute critique dessus et qu'on va sélectionner ce qui paraît musical, ce qui peut être intéressant dans une construction, dans un propos musical.
Finalement, là, vous venez de donner la définition de la musique concrète ou acousmatique.
Voilà, musique concrète, musique acousmatique, art des sons fixés, effectivement, il y a plusieurs appellations. En ce qui me concerne, je suis d'accord avec Michel Chion pour revenir à une dénomination historique, qui est celle de musique concrète, puisqu'elle nous relie aux origines de cette musique-là. Et une fois qu'on s'est débarrassé un petit peu des contresens qu'on peut faire à propos de cette dénomination, je trouve qu'elle est encore tout à fait valable.
Elle est peut-être plus claire en tout cas.
Elle est plus claire, moins ésotérique que la notion d'acousmatique, moins vague que celle d'électroacoustique. Donc pour ma part, c'est celle pour laquelle j'aurais tendance à militer. Oui.
Voilà, j'arrête mon blog sur... car j'en ai déjà un sur... D'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour, je viens juste de le commencer, ce blog, mais ça me saoule, donc je l'arrête. Marre de rire. Bon ben, bisous à tous, même si j'ai personne qui est venu sur mon blog. Marre de rire. Avec qui ça ?
Alors, acousmatique, moi je me disais que c'est beaucoup une question de génération.
Oui, encore que le terme acousmatique renvoie à l'Antiquité.
C'est donc, François Bell.
Oui, mais c'est François Bell qui l'a réintroduite. Mais on la trouve chez Schaeffer, de manière allusive. Et pour parler vraiment des conditions d'écoute, et pas comme étant une définition du genre.
C'est vrai. Alors la musique concrète s'écoute les yeux fermés, puisque de toute façon, il n'y a pas de musicien sur scène pour la voir.
Non, il n'y a rien à voir. Voilà, des haut-parleurs, ce n'est pas très intéressant à regarder. Donc on peut fermer les yeux, on peut l'écouter dans la pénombre. Mais je crois que là, en la matière, beaucoup de choses ont été tentées. Travail sur la lumière, des projections de laser, etc. Jusqu'à ce que ça devienne...
Zenaki, ça fait pas mal, ça.
Zenaki, ça fait pas mal de choses. Ça aussi, il y a une mode un peu dans le tournant des années 70-80, du light show, etc. Et finalement, je crois que les gens qui militent un petit peu pour le concert acousmatique, le concert de musique concrète, finalement, sont des partisans de l'épure. C'est-à-dire que finalement, on va mettre les gens dans une semi-pénombre et on va laisser les gens baigner dans le son et puis voilà.
Et ne solliciter que l'oreille.
Ne solliciter que l'oreille.
Un seul sens à la fois.
Et l'imaginaire. Oui.
Oui. Puisqu'en fait, cette musique, c'est un son que l'on entend sans voir celui qui le produit.
C'est la définition même d'un son acousmatique. C'est un son qu'on entend sans en voir la cause.
Et donc, d'ailleurs, la radio est un média acousmatique.
La radio est un médium acousmatique. Oui,
voilà, c'est ça qui est assez rigolo. Oui. Parce que j'ai découvert ça, je me suis dit, ça alors, la radio est acousmatique.
Voilà, mais Schaeffer, créateur de la musique concrète, était un homme de radio.
Oui, c'est vrai.
Était un homme de communication, donc il a...
Tout s'explique finalement.
Voilà, absolument.
Et d'ailleurs, j'adore ces deux titres de Schaeffer, Solfège des objets sonores et Traité des objets musicaux.
Oui.
Ça pose tout de suite, je trouve, les choses.
Voilà, le solfège de l'objet sonore, où finalement l'objet sonore, c'est le son lui-même. Qui doit s'analyser non pas en fonction de sa cause ou en fonction de paramètres qui seraient abstraits, comme la hauteur, la durée, l'intensité, mais dans tous ses caractères sensibles. Donc il a défini un certain nombre de caractères, ce qu'il appelle la morphologie, la typologie de l'objet sonore. Donc il a développé ça effectivement dans ce livre, cette Bible, qui est le traité des objets musicaux dans les années 60. Et Michel Chion, donc dans les années 80, est revenu là-dessus et a tenter de le dépoussiérer un petit peu dans un livre qui s'appelle Le Guide des objets sonores. Oui.
Puis il avait écrit un livre, Le Promeneur écoutant, que j'avais trouvé merveilleux.
Voilà, qui est un livre de
plus récent,
de Michel Chion, un petit peu plus littéraire, où il aborde le son dans ce qu'il appelle, enfin le terme est de Schaeffer, mais Chion l'a repris, qui est le terme d'acoulogie, qui est l'étude des sons, non pas dans ses caractères physiques comme l'acoustique, mais l'acoulogie, donc c'est vraiment de la manière dont on les perçoit. Et le sens qu'ils prennent dans notre vie quotidienne, voilà, que ce soit la musique, les sons environnementaux, ouais, ce qu'on appelle un peu génériquement maintenant le design sonore.
En tout cas, cette manière de composer a complètement changé le discours musical. On l'a entendu dans les extraits de vos pièces. Le discours musical ne se déroule pas sur le même temps que sur une symphonie ou une sonate. Ou voilà. Et puis, il y a la forme que prend ce discours qui est totalement...
Voilà, oui, c'est ce que j'ai essayé dans l'album Surface du Vice, c'est qu'il y a trois pièces différentes et que chacune de ces pièces, c'est un petit peu sur un registre un peu différent. On a Vacuité du Bloc, qui est une pièce un peu radiophonique, avec des voix. On a Cinq matins avant la ruine, qui là est plus une étude parfois quasiment morphologique, donc sur vraiment la forme des sons. Et puis la dernière, dont on vient d'entendre un extrait, là, qui s'appelle Quatre climats, et qui elle est plus une étude ambiante, c'est-à-dire où les sons vont respirer d'eux-mêmes, où finalement la forme musicale s'estompe quasiment au profit du climat que dégagent les sons eux-mêmes.
Et là, vous avez pensé à quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est Brian
oui,
Eno.
Brian Eno, qui lui aussi est un non-musicien, un plasticien. Il a fait des études d'art plastique avant d'être musicien.
Ah ben là, c'est formidable. Vous me faites la transition, parce que j'allais vous dire, on va, à force de parler de musique, on va oublier de parler d'images et de photographies. Et donc, comment s'est fait cette jonction, un beau matin, entre le son et l'image?
Alors, un beau matin, bon, ça a pris un petit peu plus de temps qu'un beau matin, mais effectivement, en fait, dans la musique concrète, on est libéré de l'image, mais comme on est toujours avec ses propres contradictions, se débarrasser de l'image finalement a abouti à un manque. J'ai éprouvé un manque. Donc j'ai recherché quelque chose qui serait un peu inverse par rapport à la musique concrète. La musique concrète, elle se déploie dans le temps et il n'y a rien à voir. Alors que la photographie, finalement, comme tous les arts plastiques sur support, c'est l'inverse. Ils se débarrassent du temps puisqu'on peut rester devant un bon moment, le support reste tangible. Et puis ça se déploie dans une surface et non plus dans le temps. Donc j'ai trouvé quelque chose qui est inverse et en ce qui me concerne complémentaire. Il y avait une autre chose aussi, c'est que dans ma musique, j'ai fui l'anecdote, contrairement à l'art radiophonique ou à la phonographie, où on recherche justement de coller le plus possible à la réalité. Dans ma musique, moi je suis parti dans le sens inverse, d'où l'utilisation des sons électroniques qui sont plus abstraits. mais j'ai voulu me reconfronter à une réalité tangible. Donc la photographie, avec la photographie, on ne se débarrasse pas de cet aspect-là, de ce rapport à la réalité, en fait.
Alors c'est intéressant quand vous dites que justement la photographie, le temps s'arrête en fait, c'est une envie d'arrêter le temps.
Oui.
Alors moi je pense au vidéaste Robert Cahen qui a été formé lui en musique concrète, lui il était élève de Pierre Schaeffer et qui lui est passé à l'image, mais l'image qui bouge,
oui.
C'est-à-dire que lui il distord le temps sur l'image et vous avez eu envie de faire le contraire, c'est-à-dire de l'arrêter.
De l'arrêter, oui.
Et lui il le ralentit simplement.
Oui. On ne peut pas arrêter le son, on peut le ralentir, on peut le traiter, on peut le manipuler, mais on ne peut pas l'arrêter. Enfin, il y a les systèmes pour geler le son ou figer le son, en fait, sont des artifices, ce sont des micro-boucles qu'on met les unes au-dessus des autres, qu'on accumule. D'ailleurs, on modifie beaucoup la matière du son, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais on ne peut pas l'arrêter. Alors que finalement, la photographie, même si l'obturateur s'ouvre pendant une durée, ce qu'on perçoit être quelque chose de figé, etc. On peut figer du mouvement, d'ailleurs. On peut avoir des flous cinétiques, des flous de bouger. Mais finalement, c'est quelque chose qui est quand même inscrit et fixé dans le support.
Alors, non seulement on ne peut pas arrêter le son, mais on ne peut pas fermer ses oreilles. Par contre, on peut fermer les yeux.
Oui. Oui, il n'y a pas de cadrage sonore. C'est-à-dire qu'on, quand on enregistre quelque chose, on ne peut pas isoler un élément du reste de l'ambiance sonore, notamment la réverbération, l'environnement, etc. Donc le lieu influence le son, alors qu'en photographie, on peut choisir de cadrer, on peut choisir d'exclure quelque chose de l'image. Donc effectivement, on ne peut pas fermer ses oreilles, il n'y a pas de cadrage sonore, alors que l'œil est limité en angle, et encore plus le support photographique, puisqu'on peut choisir de cadrer, on peut choisir la taille du support, etc.
Donc effectivement, votre création est un peu tous azimuts entre le son et l'image.
Ah. Tous azimuts, j'irai pas jusque là parce que je me limite à ces deux supports là.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà beaucoup. Oui, ce sont des techniques et des modes d'expression qui ont une histoire. Donc il faut un certain temps pour apprendre tout ça et éviter d'improviser.
Alors donc, je rappelle Denis Strijdbeek, Surface du Vice, donc, qui vient de paraître. Si vous voulez écouter les yeux fermés, tranquillement chez vous, et les pièces en entier, évidemment, parce que là, je les ai honteusement coupées pour les besoins de la cause. Denis Strijdbeek, merci. Et puis, peut-être une exposition de photographie un de ces jours. Là, pour l'instant, on en est sur le CD.
Tu t'es bien amusé, là ?
Oui, j'ai un peu singé quelques pièces à texte.
Ah bon ? T'es gonflé ? T'as jamais réussi à en faire une sérieuse?
Oui, c'est un peu ironique, mais ça reste respectueux. J'avais envie de jouer avec les voix, les intonations...
Ouais, mais c'est pas un peu long, là, non?
Ben justement, j'aime bien cette dernière partie, très minimale, avec ses fondus enchaînés...
Ok, bon, on va peut-être s'en tenir là?
D'accord, d'accord.
C'était une émission de Françoise Objoie de Radio Campus, montage René Lavergne.